Salut, ici Ziad Malouf de l'Atelier des médias. C'est de plus en plus rare, mais cette semaine, nous consacrons notre émission à un projet journalistique qui cherche à innover par sa forme.
Je suis Karim Ben Khalifa, correspondant de guerre, journaliste depuis 18 ans et réalisateur du projet The Enemy, aujourd'hui présent à la Statue du Volard.
Karim Ben Khalifa est déjà venu dans l'Atelier des médias, c'était il y a 6 ans. À l'époque, il portait un projet de financement participatif en faveur de photojournalistes professionnels appelé Emphasis. Comme beaucoup de jeunes pousses, cette initiative a fait long feu, mais le goût d'innover n'a jamais quitté son cofondateur. Son projet The Enemy, l'ennemi, est présenté à Paris depuis jeudi à l'Institut du Monde Arabe, mais l'histoire de cette œuvre à la frontière entre journalisme et art contemporain commence il y a 8 ans.
En 2009, ma fille avait 3 semaines. Elle était à New York tranquille avec sa maman et moi j'étais à Gaza, à côté d'un trou immense. C'était un bombardement qui avait eu lieu 2 jours plus tôt. Et j'étais avec des combattants palestiniens et je me suis dit, mais en fait, les hommes que j'ai en face de moi, c'était des enfants quand j'ai commencé à travailler. Et voilà, aujourd'hui, ils prennent une arme. Et combien de temps je vais pouvoir raconter la même histoire? Et elle, cette histoire va encore continuer à se répéter. Est-ce que mon rôle n'est juste que de regarder et de dire ça? Ou est-ce que je peux essayer de faire autre chose? Et au lieu de travailler photographiquement de manière horizontale, je suis passé au vertical, j'ai fait du portrait. Et j'aurais posé 6 questions. Et puis j'ai fait d'autres groupes palestiniens tant que j'y étais. Et puis je suis parti en Israël et j'ai travaillé avec des soldats israéliens. Enfin, j'ai interrogé des soldats israéliens et je leur ai posé les mêmes questions. Et j'ai fait les mêmes portraits. C'est devenu un travail photographique qui s'appelait Portrait des ennemis, qui est la genèse de ce qu'on voit aujourd'hui.
Approchez-vous des photos, s'il vous plaît.
Quand on est photographe, on cherche à travailler pour les meilleurs magazines. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour vraiment les meilleurs magazines dans ce monde. Parce qu'avec ces meilleurs magazines, on atteint les audiences les plus éduquées. Celles qui ont le droit de vote, celles qui ont la capacité financière d'influencer quelque chose. Et on se rend compte que finalement, on n'arrive pas. On n'arrive pas à changer les situations. On n'arrive pas à faire évoluer les situations. Est-ce que c'est le rôle d'un journaliste? On peut en débattre. Moi, je pense qu'il y a 2 types de journalistes. Il y a celui qui est là pour informer et il y a celui qui est là pour impacter. Informer, mais aussi impacter. Et ça vient d'une réflexion, d'un contrat moral dont on parle assez peu. C'est celui du... Quand on rencontre des gens au moment le plus difficile de leur vie, est-ce qu'ils nous acceptent parce que on est juste journaliste et on est témoin, ou est-ce qu'ils ont l'espoir qu'on puisse influencer sur cette situation? Moi, je pense que c'est la deuxième réponse. Et du coup, voilà, c'était comment est-ce qu'aujourd'hui je peux redesigner mon travail, repenser mon travail, repenser sa distribution, repenser sa production pour arriver à avoir un impact. Et donc, ça démarre pour moi, dans mon travail, ça démarre avec ma cible. À qui je veux parler? Et ensuite, comment est-ce que je leur parle? Et ensuite, quelle sera l'histoire? C'est vraiment dans ce sens-là que ça démarre. Et du coup, bon, ben moi, pour moi, c'est la prochaine génération de combattants. S'ils vont au travers de mon journalisme, s'ils vivent les choses telles que j'espère qu'ils la vivent, ils changent de perspective. Ils réalisent que l'autre est aussi proche ou est plus similaire qu'on leur a dit. J'ai été invité comme artiste en résidence au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge avec ce travail photographique qui s'appelait Portrait des ennemis. Et il me disait, tu es welcome, mais pense à d'autres médiums, pense à d'autres manières de raconter les histoires. On n'a pas de réponse, on ne sait pas quoi, mais on a tellement de choses ici, je suis sûr que tu vas trouver quelque chose. Et quelques semaines après, j'ai découvert la réalité virtuelle qui m'a permis je me suis posé la question, je me dis, bon alors là j'ai un travail de portrait des ennemis, qu'est-ce qui se passe si c'est plus un portrait au mur, et si la personne est dans la pièce, qu'est-ce qui se passe avec l'auditeur, le visiteur, et qu'est-ce qui se passe avec le journalisme? Et voilà, moi j'aime bien pousser les frontières, j'aime bien innover, j'aime bien aller dans l'inconnu. D'ailleurs, partir à la guerre, c'est d'aller dans l'inconnu, d'une forme d'inconnu. Ça a été ça, et ça a été la source de toutes les questions qui nous ont animés pour faire The Enemy aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer au journalisme? On fait sens du monde au travers d'histoires, et tout d'un coup, les gens en parlent, et je le vois, ça devient une expérience. Ils ont le souvenir d'une rencontre.
Bienvenue pour l'expérience The Enemy. C'est une expérience en réalité virtuelle. Vous serez en contact avec des soldats qui ont vraiment vécu les conflits qui vous seront présentés. Ils vous parleront de leur expérience, ils vous expliqueront ce qu'ils ont vécu. Donc d'abord, je vais vous inviter à remplir un questionnaire. Donc c'est pas pour vos données personnelles, mais c'est pour établir votre rapport émotionnel aux différents conflits. Et notre algorithme, ensuite, selon vos réponses, va vous établir votre parcours personnel.
Donc je suis dans l'entrée de l'installation, il y a un écran devant moi, quelques photos exposées et on m'a remis une tablette et je suis censée répondre à certaines questions. Donc d'abord on me demande quelle est ma perception générale de la guerre, avec plusieurs choix possibles. Elle n'est jamais nécessaire, elle est rarement nécessaire, elle est parfois nécessaire, elle est souvent nécessaire. Et une dernière proposition, faire la guerre est dans la nature humaine. Donc je vais cocher la dernière proposition. Ensuite une autre question. The Enemy explore plusieurs conflits. Concernant le conflit opposant les forces de défense israélienne et le Front populaire de libération de la Palestine, de quel groupe vous sentez-vous le plus proche ? Donc là, je désire ne pas répondre à cette question, parce que je coche. Quel est votre niveau d'implication dans le conflit israélo-palestinien ? Donc je dis que je suis au courant des nouvelles. Et ensuite, on me demande quelques données personnelles, mon âge, l'endroit où est-ce que j'ai vécu dans plusieurs pays, dans quel pays je vis, et si j'accepte que mes données soient recueillies à des fins non commerciales dans le cadre exclusif du projet. On entre dans une pièce, une grande pièce qui ressemble un peu à un hangar. Il y a des fils partout sur le mur, avec des sortes de petits spots bleus. Et il y a une petite dizaine de personnes armées de casques. VR avec écrit The Enemy dessus, ils ont tous un petit sac à dos sur le dos, ils déambulent comme des personnes un peu aveugles en plein milieu de la pièce. Il y a une rangée de casques VR aussi qui sont disponibles.
Pour rencontrer les combattants, avancez vers le sas.
Donc on me demande de me lever, j'entre dans une galerie virtuelle. Il y a des silhouettes à côté de moi, ce sont les autres visiteurs. J'entends des sirènes et je suis face à des photos de Karim Ben Khalifa. On me demande de rester dans cette pièce pour pouvoir rencontrer les combattants du conflit israélo-palestinien. Devant chaque tableau, devant chaque photo en noir et blanc, on entend une ambiance. On entend la description de Karim Ben Khalifa qui décrit sa rencontre avec l'homme.
Abou Khaled est un membre du Front populaire pour la libération de la Palestine. Jeune, élégant, athlétique, il inspire confiance et semble à l'aise en notre présence.
Abou Khaled se présente
pourtant,
devant vous.
Avant d'accepter d'être interviewé,
il ressemble à la photo en noir et blanc qui est là.
Abou Khaled, qui est ton ennemi et pourquoi ?
On entend la voix de Karim Ben Khalifa qui lui demande qui est son ennemi.
Mon ennemi, ce sont les forces d'occupation et l'injustice, où qu'elles se trouvent. Une force d'occupation cherche toujours à détruire le pays qu'elle occupe.
Qu'est-ce qui se passe quand le journalisme devient une rencontre ? Au lieu de voir une photo, au lieu de voir un documentaire, on est face à quelqu'un qui te parle, qui te regarde, qui interagit, qui reconnaît ta présence, dont tu reconnais sa présence. Par exemple, le langage corporel, c'est quelque chose qu'on utilise à tout instant de notre vie. On fait sens des gens au travers non seulement de ce qu'ils disent, mais de l'adéquation qu'il y a avec leur langage corporel. Et d'ailleurs, il y a parfois des gens qu'on trouve bizarre, il y a quelque chose qui ne colle pas entre ce qu'ils disent et la manière dont ils bougent. Et ce n'est pas conscient, on n'analyse pas ça de manière consciente. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment dans l'inconscient, mais c'est une véritable information qu'on acquiert et une compréhension de l'autre qu'on acquiert au travers de ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à des combattants qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ? Et comment est-ce qu'on les comprend au travers de, aussi au travers de leur langage corporel.
En tout premier lieu, je crois que la paix est un rêve. C'est la volonté de résoudre les problèmes sans violence, seulement en parlementant, de trouver des solutions créatives en négociant plutôt que de faire la guerre et d'utiliser des armes pour tuer les gens. Je crois que la paix représente l'abondance pour l'âme, la prospérité, et la joie, bien sûr.
Je trouve qu'on a une petite appréhension avant de commencer. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, une fois qu'on est assis, une fois qu'on rentre dedans, on est plutôt super à l'aise. Et je trouve qu'on vit l'expérience comme dans un vrai musée, en fait, sans qu'il y ait vraiment un vrai décalage. Et du coup, on ressent bien la réalité, en fait, qui, voilà. Les personnages sont plutôt réalistes quand même, même s'il y a cet aspect encore un peu jeu vidéo.
On a vraiment envie de toucher les gens qu'on voit, on a envie de... On leur tourne autour, il y en a qui sont super tatoués, moi j'ai regardé beaucoup les tatouages, on a l'impression que c'est vraiment là devant soi, et ça c'est assez bluffant, et aussi quand ils nous parlent on a l'impression qu'ils nous regardent, et si on bouge, leur regard suit, et ça c'est vraiment, je pense que c'est une vraie expérience immersive, on s'y croit quoi. En fait, on sait très bien qu'on est dans une salle vide, mais pendant qu'on fait l'expérience, on a vraiment l'impression qu'on a parlé avec des gens.
Depuis qu'on est enfant, Pierre et le loup et d'autres choses. Le bon, le mauvais, le danger, de quoi il faut se méfier. Plus tard, quand on grandit, on se crée sa propre histoire. Moi, je suis Karim Ben Khalifa, je me suis construit ma propre histoire, mais ça n'est qu'une histoire. Qui suis-je réellement? Qui es-tu réellement? Mais on a besoin de se construire une histoire, une identité. Et au final, on vit au travers d'histoires. Par contre, on se souvient du monde au travers des expériences. On peut te parler de l'amour, mais quand tu le vis, ça devient autre chose. On peut te parler de la douleur, mais quand tu te fais mal, tu t'en souviens différemment. Et ça, c'est ces expériences-là, c'est ça qui guide l'acte de nos vies et qui nous dirige et qui peuvent nous faire prendre de nouvelles perspectives. Je n'avais aucune idée, en débutant D&Me, que j'allais créer une expérience. Et d'ailleurs, quand on me demande, t'es plus photojournaliste, mais alors qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Je dis que je suis un journaliste expérientiel. Je vais dans l'éthique journalistique jusqu'au bout, mais je vais au-delà en créant une expérience. Les gens ont le souvenir d'une rencontre, ils n'ont pas le souvenir d'avoir vu un documentaire.
Pour la séquence avec les deux Salvadoriens, j'ai la surprise de voir débarquer deux gros gaillards torse nu, couverts de tatouages, avec leur ventre gras qui dépasse du pantalon, on voit leur slip.
Avec 37 morts en moyenne chaque jour, le El Salvador est un des pays les plus meurtriers du monde par habitant. Une nation officiellement en paix, en guerre avec elle-même.
Et eux aussi, c'est impressionnant parce qu'ils ont l'air vraiment, ils ont l'air d'être vraiment vifs et de vraiment être pénétrés par les questions de Karim Ben Khalifa.
Mon rêve et mon désir, c'est de passer plus de temps avec ma famille, voir ma fille et mes petits-enfants réunis en famille, vivre ensemble dans une maison sans avoir de problème.
La narratrice femme me demande de passer dans l'autre pièce. On me dit que j'ai encore eu un comportement différent face aux deux Salvadoriens. Et on me dit qu'à la fin de cette expérience, je suis devenue quelqu'un d'autre et je vais me retrouver face à un miroir. Donc j'y vais, je change de pièce. Un rideau s'ouvre et je me dirige vers une salle qui s'appelle l'épilogue. Je suis face à un miroir et je suis devenue Jorge Alberto face à mes interactions avec Vladimir Amilcar, qui est l'autre salvadorien. Et je suis face à un miroir et maintenant il y a Vladimir Amilcar, donc son ennemi, qui est devant moi. Et il me parle.
Non, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous habitons le même hémisphère. Si nous nous plaçons devant un miroir, regardons-nous, nous sommes tous pareils. La seule différence, c'est que je peux être plus petit, tu peux être plus grand, mais nous sommes les mêmes personnes.
Qu'est-ce que ça brise, en fait, des représentations traditionnelles de la guerre, cette expérience ?
Déjà, on a la parole de gens dont on n'entend pas parler. Et puis, quand on les entend parler, on ne s'attend pas à les entendre parler comme ça. Il y a deux types de questions. Il y a les questions sur l'autre, et puis il y a les questions sur soi-même. Et les questions sur soi-même, on se rend compte que les deux côtés, en fait, elles ont les mêmes attentes, les mêmes rêves, les mêmes cauchemars, les mêmes désirs. Et maintenant, imaginons, nous, qu'on rentre dedans et qu'on rencontre notre ennemi dedans, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on rencontre son ennemi, on fait un 180 degrés et on part. C'est ce qu'on nous a dit de faire parce que l'autre est là pour nous tuer. Ici, on peut s'en approcher et on s'en approche. Et donc, En s'en approchant, on devient vulnérable en même temps. On est vulnérable à la parole de l'autre et on est vulnérable à sa notion. Et on peut trouver des liens, on peut trouver des ponts, on peut trouver des choses qui sont similaires. Et ça, pour moi, c'est le rôle du journalisme, c'est d'amener une information qui amène un esprit critique. Et donc, c'est d'essayer de pousser beaucoup plus loin la démarche journalistique, ma démarche avant tout, et d'être très innovant là-dedans, de ne pas avoir peur de l'inconnu et d'être bien conscient des éthiques.
Tortier, le combattant salvadorien d'un des gangs. Hein. J'ai pas compris pourquoi c'était ça. Après, je me posais des questions techniques sur comment ça marche.
Bonjour, moi je suis Hélène Adamo, je suis la chef de projet et je vais être en charge de la distribution de cette installation de réalité virtuelle, The Enemy. Techniquement, il fonctionne avec un certain nombre de technologies, des caméras infrarouges qui permettent de traquer les utilisateurs dans l'espace, jusqu'à 20 utilisateurs simultanés, un sac à dos sans fil avec un PC évidemment dedans, et un Oculus, donc un casque de réalité virtuelle sur les oreilles avec un casque audio pour le son, et une partie technologique qui est plus basée sur la science cognitive. Quand vous êtes venu vivre l'expérience, on vous a demandé de remplir un petit questionnaire en amont. On récolte ainsi des données un petit peu personnelles sur votre perception de la guerre et si vous avez un biais émotionnel vis-à-vis d'un des conflits. Pendant l'expérience, on va aussi enregistrer tous vos déplacements, tout votre comportement. Et grâce à ces sciences cognitives qui ont été du coup élaborées par un professeur, le professeur Fox Harrell du MIT, on va déterminer l'épilogue dans lequel vous passez. En termes de contenu, les interviews, tous les visiteurs verront les mêmes contenus, juste dans un ordre différent. Et ensuite, on va analyser leur comportement d'un conflit à un autre pour voir l'évolution, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt calme va rester calme, mais quelqu'un qui est plutôt comme moi un peu hyperactif va bouger beaucoup, c'est pas une donnée interprétée. Donc il y a vraiment un savoir-faire d'analyse de données, que ce soit vraiment des données significatives pour qu'on puisse vous raconter l'épilogue qui vous parle le plus, on l'espère, à la sortie, et qui sera donc unique par visiteur.
A priori, on m'a dit que j'avais un comportement différent face aux deux combattants salvadoriens, et on m'a présenté à la fin, à l'épilogue, comme étant un des deux combattants salvadoriens, et donc je me suis figurée, j'étais face à l'autre, à son ennemi, qui m'expliquait en quoi nous étions similaires, etc. Qu'est-ce qui a pu changer en fait dans mon comportement qui a pu indiquer ça pour l'épilogue ?
Tout au long du temps, on va surtout analyser avec quel combattant vous avez été le moins à l'aise ou le plus stressé. C'est un peu difficile à définir. En fait, vous devenez l'ennemi du combattant qui vous a le plus dérangé. Alors, on a plusieurs façons de l'appréhender. On va avoir une distance. Quelle distance vous tenez d'un combattant par rapport à un autre ? Est-ce que vous bougez beaucoup autour d'un combattant par rapport à un autre ? Est-ce que vous le regardez dans les yeux ? Est-ce que vous êtes de profil ? Est-ce que, à nouveau, vous bougez beaucoup, vous êtes calme ? Et surtout, dans l'évolution du parcours. Donc, il y a de l'intra-expérience et de l'intra-utilisateur là-dedans. C'est-à-dire qu'on va analyser vraiment votre évolution tout au long de l'expérience pour déterminer, on l'espère, le combattant qui vous a le moins mis à l'aise. J'aime pas dire mal à l'aise, mais le moins mis à l'aise. Alors, ces données vont être utilisées absolument à des fins non commerciales. Elles vont surtout servir à ajuster à chaque fois l'expérience. Et on va, grâce à un grand nombre d'utilisateurs, pouvoir affiner ces niveaux de mesure et donc obtenir l'épilogue le plus juste possible pour les visiteurs à la sortie. Et également, on va pouvoir, pour la première fois, mesurer aussi l'impact de cette nouvelle forme de narration, cette réalité virtuelle, et pouvoir mesurer l'impact que ça procure vraiment chez les gens, ce qui était impossible avec des applications iPad, où on sait si on a cliqué sur un bouton ou sur un autre, mais ça, c'est quand même très limité, c'est très expérience utilisateur, ça ne donne pas quelque chose en retour sur l'impact que ça a pu procurer chez les gens, à savoir, par exemple ici, beaucoup de gens sortent de l'expérience en nous parlant de la présence des êtres humains. On s'attendait, nous, à avoir des gens qui allaient tester la technologie beaucoup, et ce qui nous fait le plus plaisir à la sortie, c'est que les gens oublient qu'ils sont dans de la technologie absolument innovante. Il n'y a vraiment quasi aucune autre expérience que The Enemy qui peut faire ça. 20 utilisateurs simultanés, sans fil. On est vraiment à l'orée d'une nouvelle forme de narration. Et donc, on va pouvoir mesurer cet impact sur les gens et sur leur expérience.
Fin de la première partie, mais restez avec nous. Nous retrouvons dans un instant Karim Benkhalifa au micro de Constance Léon, Atelier des médias. Atelier des médias, bienvenue si vous nous rejoignez.
Pour rencontrer les combattants,
restait immobile pendant le chargement de la nouvelle salle.
Il se décrit comme un journaliste expérientiel. Le photographe belgo-tunisien Karim Ben Khalifa, après avoir couvert des dizaines de conflits armés dans le monde, a décidé de prendre du recul pour plonger son audience au cœur d'un dispositif de réalité virtuelle. Le nom de ce dispositif, The Enemy, l'ennemi en français, il est présenté depuis le 18 mai et jusqu'au 4 juin à l'Institut du Monde Arabe à Paris. 50 minutes, casque sur les yeux et les oreilles, ordinateur portable dans le dos pour rencontrer 6 combattants, 3 paires d'ennemis réunis, mis face à face dans ce dispositif unique en son genre. Constance Léon a pu faire l'expérience de The Enemy pour l'atelier des médias. Karim Ben Khalifa est à son micro.
Dans The Enemy, il y a 3 expériences, 3 conflits différents. Il y a d'abord le conflit israélo-palestinien, le Congo et enfin le Salvador. Pourquoi ces 3 conflits ?
Parce qu'ils sont tous nés avec des ennemis, parce que c'est intergénérationnel, parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Georges ou Coqui, le salvadorien, nous raconte que voilà, il est devenu un mahas pour le MS-13 parce qu'il était dans cette rue-là. Il aurait habité 2 rues plus loin, il aurait été un barrio 18, donc c'était pas une question d'idéologie. Voilà, un Israélien qui serait né à Gaza, qui serait pas israélien mais qui serait gazaouite, il serait peut-être dans la position du gars de Gaza aujourd'hui, et l'inverse, un Palestinien qui serait né en Israël et qui serait pas palestinien pourrait être dans la position de l'Israélien. Voilà, il faut être conscient de son histoire, mais il faut être conscient de l'histoire de l'autre et se la réapproprier et puis voilà, accepter qu'il puisse y avoir une autre perspective. Et ce qu'on découvre dans The Enemy, c'est qu'ils ont autant peur l'un de l'autre. Ce n'est pas, on ne fait pas la guerre de manière offensive. Personne ne le dit qu'ils le font de manière offensive. Ils le font de manière défensive. Ils disent toujours pourquoi c'est ton ennemi. Mais parce qu'il m'a pris ma terre, ou parce qu'il est dans mon territoire, ou parce qu'il a attaqué mais c'est jamais parce que je veux devenir plus riche, ou parce que je hais l'autre et que je dois l'éliminer. Non. C'est parce que je suis dans la défense de qui je suis, de ma culture, de ma famille, de ma religion parfois. En l'occurrence, il ne parle pas trop de religion dans The Enemy, ce n'est pas du tout le propos. Là, on revient sur le cœur du conflit, c'est-à-dire Israël-Palestine, c'est un conflit territorial. Les Mahas, c'est un conflit de criminalité, mais qui est aussi très, très territorial. Et puis, et puis le Congo, c'est un conflit de ressources. Bon, on se bat pour les mines, pour la facilité qu'on peut vivre ensuite avec la possession d'une mine.
Mon nom est Patient Kaboyi. Je suis soldat et j'ai le grade de sergent. Je suis entré dans l'armée gouvernementale congolaise en 2002 et j'ai 30 ans.
Comment vous appelez-vous? Quel est votre âge, votre grade et votre appartenance militaire?
Je m'appelle Moussa Ninyange Gaï Kenya, agent de Dieu. J'ai 32 ans. Mon grade est adjudant-chef au sein du FDLR.
Qui est votre ennemi?
Mon ennemi est avant tout le Tutsi. Il est vrai que nous pouvons avoir d'autres ennemis au sein d'autres milices armées. Mais le Tutsi est mon principal ennemi, avec d'autres qui se coalisent avec lui, comme par exemple les forces du gouvernement, les Mai Mai du NDC et de Mutomboki. Mes ennemis sont les Mai Mai NDC et le FDLR. Ce sont eux qui sont venus me menacer au Congo. Ils menacent la population, ils volent les richesses de ces derniers et les violent. Les gens meurent. Voilà ceux que je considère comme mon ennemi.
Avez-vous, personnellement ou avec votre groupe armé, été combattre près des mines? Et pour quelles raisons?
Oui, parfois on a fait la guerre près des mines. On s'approche de ces riches mines pour qu'on puisse obtenir un peu d'argent, vu la misérable vie que nous menons dans la forêt. Oui, on s'est battu contre eux et nécessairement dans la région des mines. Je ne suis pas encore allé sur le chemin qui va vers les mines. On se bat, mais pas dans les chemins qui vont vers les mines.
Ton travail à l'intérieur du projet, on a les photos par exemple, tes photos en noir et blanc qui restent derrière les combattants lorsqu'ils nous parlent, qu'ils parlent aux spectateurs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait
C'est un rappel à la réalité. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, je pense qu'on peut accorder plus de réalité. Quand on voit le portrait derrière, on se dit toujours ah ben oui, en fait, c'est une véritable personne quoi. C'est pas, il y a pas de montage, il y a pas d'improvisation, il y a pas d'interprétation. Cette personne qui me parle, elle existe et son portrait derrière elle. Donc c'est d'avoir un rappel constant pour le visiteur de la réalité du propos, de la réalité du mouvement, du langage corporel des gens qu'on rencontre. Ils sont vraiment là et il se trouve qu'ils sont les six vivants. Ils sont les six. Voilà, ils sont quelque part dans ce monde et ils font ce qu'ils font. Et ils sont aujourd'hui aussi tous les six avec nous.
Ils sont avec nous, avec ce langage aussi corporel dont on parlait, qui dit beaucoup de leur personnalité, au-delà des questions que tu leur poses. Quelle a été la démarche quand tu les as interviewés, quand tu les as enregistrés, pour saisir justement leur langage corporel et avec tes questions, comment ça s'est passé ?
C'était vraiment leur dire soyez à l'aise, soyez tranquille, soyez qui vous êtes, bougez comme vous voulez bouger. Et puis pour ce qui était des questions, je ne les ai pas trop préparés aux questions parce que je savais que j'allais leur poser des questions sur l'autre, ou fort probablement ils allaient me donner une réponse qui soit stéréotypée, qui soit celle qu'on connaît finalement, où il n'y a pas trop de surprises de notre côté, et puis des réponses sur eux et des questions fondamentales. Est-ce qu'on a des cauchemars après ce qu'on vit? Est-ce qu'on a encore des rêves? Comment est-ce qu'on se projette dans 20 ans? 20 ans, c'est le fantasme. C'est dans 20 ans, voilà, je serai ça, on aura quitté la guerre, et on pourra faire ça. Et donc voilà, c'est la forme du fantasme. Mais même le fantasme, il est similaire des deux côtés. Donc, ouais.
Gilad, où te vois-tu dans 20 ans?
Dans 20 ans, je rêve d'assister à la remise de diplôme de ma fille à l'université plutôt qu'à sa cérémonie de libération du service militaire.
Est-ce que ce sont des questions que tu te poses à toi-même ?
Bien sûr. Ben oui. Avant de les poser aux autres, je me les pose à moi-même.
Et c'est comme ça qu'elles te sont venues quand tu étais à Gaza ? Et c'est ces questions que tu poses aussi dans d'autres conflits qui se trouvent dans The Enemy ?
Non, elles ne sont pas venues pour ça et comme ça. Elles sont venues parce que je ne voulais pas poser des questions complexes. J'étais face à des gens, souvent les soldats ou les combattants, ce n'est pas des gens très éduqués. Donc c'est des questions simples, des questions qu'ils peuvent comprendre. Quand on leur demande, voilà, c'est quoi la violence pour toi ? Ben, avec leurs mots, ils peuvent me traduire qu'est-ce qu'est la violence pour eux. Si je leur pose une question de géopolitique, ça peut être plus compliqué parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les éléments pour y répondre. Et donc voilà, c'était garder un propos simple, un propos qui puisse être compris aussi par tout le monde.
Tu parles aussi souvent de reconstruction dans le travail de journaliste. Est-ce qu'il y a une forme de reconstruction dans The Enemy ?
Bien sûr, absolument. Mais il y a une forme de reconstruction dans un journal. Il y a une forme de, on fait une maquette. Une maquette, c'est une reconstruction. Dans l'atelier des médias, il y a une conférence de rédaction. Comment est-ce qu'on va construire notre émission et par quoi on l'entame et par quoi on la finit? Le journalisme, c'est une reconstruction à tout moment. Et je pense que c'est important de le rappeler. Voilà. Ouais. Donc, bien sûr, c'est une reconstruction.
Allez, Maud, je vais les...
Je crois que la violence peut être de différentes formes. Elle peut être verbale ou pour protester contre quelque chose. Elle peut être à base d'armes à feu ou d'armes blanches. Ou simplement compromettre la vie de tous les jours.
C'est vraiment important d'innover, d'aller sur des territoires inconnus, mais toujours en respectant ou en faisant évoluer l'éthique du journalisme, mais vraiment toujours dans l'éthique du journalisme. Oui, c'est important. Je n'ai rien contre le journalisme traditionnel, mais je pense que c'est pas plus mal d'innover. Les jeunes, ils vont 50 minutes dedans. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne font pas de long form journalisme ou très très peu. Aujourd'hui, quand ils viennent voir The Enemy, ils sont dans 50 minutes de journalisme ininterrompu, dans une expérience où ils sont contents de venir, dans un médium qu'ils appréhendent très bien ou qu'ils ont envie de découvrir. Je suis pas sûr que si on leur mettait tous les textes et les photos dans un magazine, qu'ils le liraient. Et quand bien même ils le feraient, est-ce que ça donnerait la même impression ? Est-ce que ce serait aussi important ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour toi, le fait de les transporter en tant que journaliste dans un monde qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaîtront peut-être jamais, et
C'est le rôle du journaliste, c'est d'amener une information, c'est d'amener un monde peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on appréhende mal, et d'amener un certain nombre d'informations dedans. C'est le rôle du journaliste, et je ne vais pas plus loin que ça. Je n'ai pas plus d'ambition que d'amener une information, en espérant que cette information nous amène un esprit critique et nous fasse nous rendre compte, voilà, d'un certain nombre de choses dans la vie qu'on n'aurait pas vues sans ça.
Je suis Hélène Adamo, je suis la chef de projet et je vais être en charge de la distribution de cette installation de réalité virtuelle, The Enemy.
Vous avez fait participer des lycéens qui ont vu le projet avec le réseau Canopée. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça va continuer?
Alors on va essayer que ça continue. Déjà, les lycéens vont revenir là le 23 mai pour justement interviewer les visiteurs qui sortiront de l'expérience, comme eux l'ont vécu, et que c'était les premiers en novembre à vivre l'expérience, on va dire, quasi complète, c'est-à-dire le questionnaire en amont, l'expérience, et puis la sortie, le débrief avec les enseignants, évidemment. Ce qui a été vraiment troublant pour nous, c'est leur capacité d'attention. C'est-à-dire qu'ils jouaient un petit peu les deux premières minutes. Évidemment, ils se connaissent, ils sont côte à côte, ils se découvrent en réalité virtuelle, donc ils jouent. Et puis les combattants arrivent, et là, il y a un silence qui s'installe et une écoute. Et avec les enseignants qui ont la bouche, ils sont bouche bée. Comment faites-vous? 50 minutes d'attention, 50 minutes de journalisme. Qui fait ça aujourd'hui pour des jeunes lycéens? C'est quasi jamais vu. Très intéressant comme retour aussi, c'est la durée de l'expérience pour eux. Vraiment, c'est 15 à 20 minutes maximum. Et quand on leur dit que c'est 50, ils sont vraiment très surpris de ça. Et puis alors après, fantastique, c'est les retours de cette présence, de ces rencontres. Ce qui se rappelle, c'est la rencontre avec Jean de Dieu, c'est la rencontre avec Coqui. Ils se rappellent pas du texte au mur sur le contexte qu'on essaye de mettre sur la guerre, très léger, mais ça reste pas comme contenu. En revanche, la rencontre avec l'autre, ils s'en rappellent vraiment des semaines et des semaines après, puisqu'on a fait, un petit passage sur France Inter avec eux pendant la journée interclasse d'Inter, et ils se rappelaient des phrases de Jean de Dieu, mot pour mot. C'était vraiment des rencontres, ils ont essayé de le prendre dans leurs bras, sachant qu'il n'était pas là, mais quand même le cerveau a... Donc c'est vraiment une autre forme d'enregistrement de l'information qui se produit sous nos yeux. C'est absolument fascinant. Maybe you could talk freely, speak to me for once so truly, for once so truly I could know. Swear you're gone, swear I'm standing. I am clearly disappearing. I am clearly disappearing at the thought of our nearing. And it was there you declared.
Vous écoutez l'Atelier des médias sur RFI. Nous sommes cette semaine avec le photojournaliste Karim Benkhalifa, concepteur et auteur du projet en réalité virtuelle The Enemy.
Où est-ce qu'on regarde la télévision ? Où est-ce qu'on lit le journal ? Où est-ce qu'on écoute la radio ? Et la réponse, c'est dans son fauteuil, dans son lit. On lit le journal, voilà, peut-être dans le métro, mais au pire, on écoute la radio dans sa voiture. Donc, c'est passif. Ici, c'est l'inverse du passif. Tu viens de le faire. On s'approche, on se déplace, on marche. Donc, voilà, c'est un questionnement sur le journalisme. Est-ce que le journalisme doit être passif ? Est-ce que ça suffit de tourner sa radio et d'écouter ? Ou est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et si on va plus loin, qu'est-ce que ça amène ? C'est des questions. J'ai pas les réponses.
Ça amène forcément de l'empathie, j'imagine. Et est-ce que c'est le but recherché ?
Non. Non, non, je ne cherche pas à créer de l'empathie. En plus, l'empathie est quelque chose de très, très compliqué. On peut créer de l'empathie pour son propre groupe, à l'opposé de l'autre groupe. Donc, l'empathie peut se retourner, peut devenir l'inverse de ce qu'on croit que l'empathie est. Puis, l'empathie, c'est contextuel. Parfois, on va dans sa poche et on donne une pièce à quelqu'un en rue, et parfois, on ne le fait pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on le fait ? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas ? Donc, l'empathie, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Je parlerai peut-être plus de compassion sans la connotation religieuse, mais de compassion, d'altruisme, voilà, de conscience de l'autre. Mais je ne cherche pas à créer de l'empathie. Je cherche à créer une information qui va peut-être nous rendre plus critiques. Et si ça passe par ce qu'on croit être l'empathie, très bien. Mais l'empathie est très très complexe. Toutes les études scientifiques nous le prouvent. Et donc c'est pas un mot que j'utilise du tout dans mon travail. En tout cas, pas un mot que j'utilise aujourd'hui. Je l'ai utilisé avant, mais j'ai découvert que c'était complexe et j'ai supprimé ce mot de mon vocabulaire.
Il y a d'autres projets qui ont existé, peut-être pas à l'époque, mais de réalité virtuelle où on est, par exemple, en Syrie, sur le champ de bataille. C'était le studio Okio qui avait fait ça. Ou alors il y a les expériences avec les déplacés en réalité virtuelle du New York Times, où on est aussi à la place finalement de quelqu'un qui est déplacé ou réfugié, qui a quitté son foyer. Comment tu as intégré ces autres expériences dans la construction de la tienne ?
J'ai une confidence à te faire. Je n'ai fait aucune de ces expériences. Je n'ai jamais fait de réalité virtuelle. Je n'ai fait que The Enemy. J'ai découvert la réalité virtuelle, c'était sur le bord d'une montagne. Il se trouve que j'ai le vertige, donc j'ai regardé en bas, j'ai ressenti le vertige. J'ai compris ce que le médium pouvait faire très très rapidement. J'ai enlevé le casque, ça a duré 4 minutes. Et je n'ai plus jamais mis un casque de réalité virtuelle, si ce n'est dans The Enemy, pour regarder mon travail. Mais il y a une raison très simple, c'est que je suis quelqu'un d'assez fainéant. Et qu'on est dans un nouveau médium où tous nous, réalisateurs, auteurs, on essaie de trouver des solutions pour raconter des histoires. Et je ne voulais pas trouver la solution des autres. Je voulais me poser sur un problème vierge et anticiper ce problème et essayer de le régler par moi-même. Et si je n'y arrivais pas, j'aurais été voir d'autres choses. Mais je n'ai pas ressenti le besoin d'aller voir autre chose. Donc maintenant, je vais commencer à faire de la réalité virtuelle et d'aller voir tous ces travaux dont on m'a parlé beaucoup. Je n'ai jamais fait de réalité virtuelle.
Attention, il y a un vrai mur derrière le mur virtuel.
Qu'est-ce qui va se passer au journalisme ? Qu'est-ce qui va se passer avec le visiteur ? Est-ce qu'il va recevoir le message ? Est-ce qu'il va le comprendre ? Est-ce que ça va être crédible ? Et donc tout ça, c'était des checks qu'il fallait qu'on vérifie.
De faire comprendre qui était l'autre.
Qui on est par rapport à l'autre. Et comment est-ce qu'on re-questionne ça ? Alors, il y a le risque de la technologie, de divertir les gens par rapport à la technologie, mais dans l'ensemble, moi, les gens qui sortent de là oublient qu'ils étaient en immersion, ils oublient qu'ils étaient à l'Institut du Monde Arabe, ils s'en souviennent quand on leur enlève le casque, et il y a d'ailleurs un certain temps d'adaptation. Et puis, il y avait plein d'inconnus, on ne sait pas si 50 minutes, c'est pas trop long dans la réalité virtuelle, et aujourd'hui, on peut se rendre compte que non, en fait, c'est pas trop long. Les gens y arrivent, le font, et ils ne sont pas ni malades, ni inconfortables à la fin, ça peut être un peu d'inconfort pour certaines personnes, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt très très bien. Mais tout ça, de nouveau, c'était des questionnements qu'on n'avait pas, on n'avait pas la réponse avant. Ce qu'on peut connaître de moi, c'est mes photos, mais moi j'ai toutes les expériences derrière les photos. Comment est-ce qu'on accède à ça, comment est-ce qu'on va là, comment est-ce qu'on va sur une ligne de front, j'ai repris toute mon expérience d'humain et de journaliste au-delà de la photographie pour recréer quelque chose qui soit venez, vous allez dans mes chaussures, vous allez rencontrer des gens que j'ai rencontrés, et comment est-ce qu'on fait quelque chose de très simple finalement. Donc c'est très, énormément de complexité pour faire un truc très simple. Moi, je suis un être en pleine évolution, non seulement au travers de qui je suis, père, et puis journaliste, raconteur d'histoire, ami d'autres, fils. Et c'est mon être qui va vers l'autre, c'est mon être qui cherche à comprendre. D'être entre deux continents, entre deux cultures, ça fait vraiment partie de moi. Et j'ai la compréhension d'une culture, mais j'ai aussi une compréhension vraiment profonde d'une autre. Et aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de stéréotypes et de choses mal comprises entre ces deux cultures, et ces choses-là, je les porte en moi aussi. Et en tant que journaliste, c'est mon rôle d'essayer de faire se rejoindre les gens plus que de les faire se séparer.
Même si je parle en tant que commandant d'une unité de combat, j'ai toujours été poussé par un sentiment de défense et de survie, mais jamais par un esprit de revanche ou de conquête. C'est pour cela que j'espère que l'humanité va réussir à comprendre que les guerres ne finissent jamais bien, mais aussi qu'aucune religion n'encourage à tuer, qu'aucune terre ne peut être fertile si elle est irriguée par le sang. Nous sommes ici pour un temps limité. Mieux vaut en être conscient.
Tu as grandi en Belgique, mais tu es aussi d'origine tunisienne. Et dans pas mal d'interviews que j'ai lues sur le projet de toi, tu dis que cette binationalité a eu un rôle important dans ta manière de percevoir les conflits.
Oui. J'ai en fait d'être entre deux continents, entre deux cultures, ça fait vraiment partie de moi. J'ai la compréhension d'une culture, mais j'ai aussi une compréhension vraiment profonde d'une autre. Et aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de stéréotypes et de choses mal comprises entre ces deux cultures, et ces choses-là, je les porte en moi aussi. Et en tant que journaliste, c'est mon rôle d'essayer de faire se rejoindre les gens plus que de les faire se séparer.
Quelle est la part de ton histoire personnelle dans ton rôle, dans ton travail de reporter de guerre ?
Ah bah c'est tout. C'est tout, c'est mon être qui va vers l'autre, c'est mon être qui cherche à comprendre, qui cherche des réponses. Il n'y a pas une part de travail et une part de personnel, les deux sont mélangés.
Toi, par rapport à justement ton expérience personnelle, je reviens à ta binationalité. Quand tu disais que pendant plusieurs années, jusqu'en 2011, tu ne pouvais plus aller en Tunisie. Et tu as proposé en 2011 justement de couvrir les révolutions en Tunisie, dans le village de ton grand-père, qui porte le nom de ton grand-père. Est-ce que c'était une manière aussi de rencontrer ta famille, mais aussi tes ennemis, ceux qui t'avaient empêché de revenir ?
Ouais, c'était un voyage très très personnel que j'ai fait pour Le Monde d'ailleurs. C'est devenu ce qu'on appelait dans Le Monde les chroniques tunisiennes. Et c'était vraiment un retour aux sources, un retour à mon journalisme. Mais en même temps, je travaillais avec mon iPhone, j'étais très libre, j'étais très discret. Je portais pas l'étiquette du journaliste apparent, et c'était dans l'idée qu'on peut se fondre et qu'on peut être une mouche sur un mur et observer les choses. Et c'était confronter ma propre histoire à l'histoire que j'ai vécue et à la manière dont je l'ai perçue, et puis faire une redécouverte, parce que je pouvais aller partout dans le monde arabe, mais je pouvais pas rentrer à la maison. Et voilà, de rentrer à la maison, c'est devenu un voyage journalistique, mais aussi émotionnel.
Comment ça s'est intégré dans la construction du projet The Enemy, qui a donc débuté plus tôt ?
Oui, The Enemy, c'est moi, en fait, c'est moi jusqu'au bout, dans le sens où, cette binationalité, cette bivalence, cette ambiguïté entre deux continents, deux cultures, ça fait partie de moi, et puis je pense qu'on me sent pas dedans. Mais on sent tout ça quand on est dedans. Voilà, pour moi, c'est... Et j'ai fini avec la guerre aussi, j'ai fini de m'interroger sur la guerre. Il y a d'autres problématiques dans le monde auxquelles je vais m'intéresser, mais j'ai... C'était la raison pour laquelle, au tout départ, naïvement, j'ai été couvrir la guerre. Pourquoi est-ce qu'on se bat ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour se battre ? Et j'avais pas la réponse. Et j'ai mis très très longtemps à les trouver. Comment est-ce qu'on se construit l'histoire de l'autre ? Alors c'est pas soi tout seul, c'est sa culture, c'est son niveau social, c'est son environnement, c'est son histoire, et avec le grand H pour le coup, de là où on est. Tout ça est normal, mais ce qui est normal aussi, c'est de vouloir secouer un peu la machine et de voir ce qu'il en reste vraiment. d'amener de nouvelles perspectives. Moi, je suis un raconteur d'histoires et j'ai envie que ces histoires-là nous racontent, nous offrent de nouvelles perspectives sans donner de réponse. Enfin, tu viens de vivre The Enemy, je n'ai rien affirmé à la fin. J'ai envie que ça se finisse avec un point d'interrogation, ce point d'interrogation sur lequel on s'interroge. I've got these visions in my mind, where I can save all of mankind. Trying to be brave, trying to be strong, get everyone to get along. There's always something that goes wrong. I've got these visions in my mind.
Ennemi de Karim Ben Khalifa est à voir à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 4 juin à Paris. Pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de venir jusqu'à Paris, une application sera disponible dans le courant de l'été. C'était l'Atelier des médias, une émission signée Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, Simon Decreuse et Ziad Malouf. À la réalisation cette semaine, Pierre Chaffanjon, merci et bravo à lui. Pour nous écouter, nous réentendre, nous partager, penser, podcast, des dizaines d'applications sont disponibles gratuitement pour vous abonner à vos émissions préférées et ne manquez aucun épisode. Salut à toutes et à tous.
Gracias por haberme escuchado.